Eh bien voilà, avec cette chanson, eh bien nous entamons le deuxième temps de l'émission, rencontre avec Frédéric Goldbronn. Nous sommes en Espagne, dans les années 30. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci de votre invitation.
Peux-tu nous présenter ton parcours pour aboutir à ce documentaire dont nous allons parler pendant une demi-heure, Hommage à la Catalogne, le titre du célèbre livre de George Orwell?
Ah, c'est une histoire qui remonte à loin. Mmh. En fait, j'ai découvert les archives, enfin les actualités cinématographiques des anarchistes en juillet 1977. Aux Journées Libertaires à Barcelone.
Des
grandes journées des rencontres internationales. C'était la renaissance, enfin la renaissance espérée en tout cas du mouvement anarchiste, après 40 ans de dictature franquiste. Et à cette occasion, les images faites par les opérateurs anarchistes, les opérateurs de la CNT, ont été montrées pour la première fois en format pellicule. À l'époque, il n'y avait pas encore de vidéo. Et dans un cinéma qui s'appelait le Diana, dans le Barrio Chino, à Barcelone. Voilà, au milieu d'une effervescence incroyable. Et ces images, évidemment, moi, comme tous les spectateurs qui étaient là, les jeunes spectateurs en particulier, on était bouleversés par cette présence du passé, de ce mythe de la Révolution espagnole qui était pour nous très important. Et évidemment, j'étais venu avec quelques amis à Barcelone et notre livre, non pas de chevet, puisqu'on voyageait beaucoup, était précisément Hommage à la Catalogne. Donc, il y a une sorte de rencontre entre ce texte qu'on lisait attentivement et puis ces images qui a été un choc. Voilà, pour moi, un choc. À l'époque, je ne pensais pas du tout que je ferais des films documentaires. Je n'avais aucune idée du métier que j'allais exercer.
Bah, c'est un métier, voilà. C'est ton métier.
C'est mon métier principal, oui.
D'accord.
Oui,
mm-hmm. Oui.
C'est une histoire c'est une rencontre qui a fait son chemin j'ai fait des études d'histoire sociale et à l'école des hautes études en sciences sociales, et puis j'ai fait une formation de documentaliste avec une spécialisation audiovisuelle. Ensuite, au début des années 90, j'ai voulu m'orienter vers la réalisation de films documentaires et j'ai fait les ateliers Varan, qui sont des ateliers créés par le cinéaste Jean Rouch,
oui.
Et qui sont juste à côté d'ailleurs, qui sont métro Philippe Auguste également. Et donc j'ai fait une petite dizaine de films et on arrive à celui-là.
C'est bien que tu utilises le terme de révolution, car on parle toujours de la guerre d'Espagne, mais on souligne moins qu'il y a eu une révolution. On parle de la guerre et de ses horreurs, mais la révolution, il s'est passé quelque chose, et Orwell est dedans et il le voit.
Oui, la révolution, c'est précisément la part la plus scandaleuse, disons, de la guerre d'Espagne, et celle qui a été, c'est ce qu'on appelait le grand camouflage à l'époque, hein, Burnet Bolotène qui appelait ça le grand camouflage. On a évidemment peu parlé de cet aspect de la guerre d'Espagne, et c'est seulement aujourd'hui que, enfin, on en parle de plus en plus, bien sûr, et pour toutes sortes de raisons. Des raisons qu'on peut assez facilement comprendre aujourd'hui, hein, notamment l'hostilité que cette révolution a rencontrée de la part des appareils communistes, enfin du Parti communiste, qui était à l'époque totalement sous la domination du Comintern et de Staline.
Stalinienne, oui.
Voilà.
Les images, alors tu as dit que tu avais utilisé les images de la CNT et tu as travaillé avec l'association, une association qu'on aime bien et qu'on connaît bien ici, l'association du 24 août 1944 et avec le RIDIC.
Tout à fait.
Alors, l'association, comment as-tu travaillé avec elle,
bah, et puis Rédic aussi? En fait, c'est un Richard Prost, qui fait partie de cette association et qui est un des fondateurs du Rédic, m'a proposé qu'on puisse accéder à ces images d'archives en coproduction, et ce qui permet de faire le film aujourd'hui. Voilà.
Et donc, le Rédic?
Et le Rédic, c'est le réseau de recherche en histoire, je ne me souviens plus de la déclinaison exacte du sigle. C'est le réseau de recherche en histoire sociale, oui.
D'accord. Alors, comme nous sommes dans une émission consacrée au livre, je voudrais que tu nous parles du temps de l'écriture d'Orwell. Je crois que il l'a pas écrit comme un reportage en prenant des notes au jour le jour. Et tu utilises aussi le terme le retour à la racine avec cette formule ça a été. Qu'est-ce que ça veut dire le retour à la racine et ça a été?
En fait, Orwell raconte donc dans Hommage à la Catalogne, raconte son expérience en Espagne, hein, qui est une expérience un peu en trois temps, disons, le livre a trois parties, on pourrait dire. Une première partie qui est consacrée, il arrive à Barcelone fin décembre 1936 et il est totalement stupéfait, dans le bon sens du terme, parce qu'il voit, quoi. Pour lui, c'est la première fois qu'il voit. Un pays où la classe ouvrière a pris le pouvoir. Enfin, c'est comme ça qu'il le présente. Et il est parfois un peu choqué, parfois un peu... Enfin, en tout cas, toujours très surpris. Il a envie d'en être.
Il est lucide aussi.
Il a envie de se battre pour... Ouais. Pour défendre
cette révolution.
Cette révolution, voilà. Et donc, il part combattre sur il ne veut pas rester spectateur, il part combattre sur le front d'Aragon, et il combat avec la milice du Poum, bon, pour des raisons un peu circonstancielles, il arrive dans la milice du Poum, enfin, il dit aussi qu'il aurait pu très bien arriver dans les milices anarchistes, et donc, il fait une expérience très forte, au front, qui est beaucoup plus évidemment dur que son enthousiasme de départ, et qui est l'expérience du dénuement, de l'absence d'armes, des miliciens, mais aussi de la fraternité extrême qui règne entre les miliciens et les miliciennes. Il y en avait quelques-unes aussi,
oui.
Et encore à cette époque-là, et c'est une expérience pour lui très forte. Il dit que ces milices, c'était pour lui le microcosme d'une société sans classe. Et puis, donc, il reste comme ça pendant jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, il arrive début janvier sur le front d'Aragon. Il reste jusqu'à la fin du mois d'avril 37. Et fin avril 37, il passe toutes ces semaines avec des dizaines de milliers de personnes, hein, qui occupent ces hauteurs du front d'Aragon et qui se battent peu ou prou pour une révolution prolétarienne. Et il a une permission fin avril, il arrive à Barcelone, et à Barcelone, les choses ont complètement changé. Les anarchistes qui occupaient encore beaucoup de postes stratégiques, d'entreprises à cette époque-là, sont de plus en plus confrontés à la pression des communistes, qui étaient un tout petit parti au début de, avant la révolution, avant juillet 36, et qui ont pris beaucoup, beaucoup d'importance, et une importance stratégique, avec évidemment les livraisons d'armes de l'URSS. En échange de ces livraisons d'armes, les staliniens se sont emparés de beaucoup de postes. Et donc, les staliniens, alliés à la bourgeoisie républicaine, donc à la bourgeoisie antifasciste, mais anti-révolutionnaire également, évidemment, cette alliance des staliniens et de la bourgeoisie républicaine vise à désarmer les anarchistes et il y a une provocation, les anarchistes occupent ce qu'on appelle la téléphonique, le central téléphonique, oui. Et d'où partent toutes les communications, où arrivent toutes les communications, enfin où passent toutes les communications, y compris les communications avec l'étranger, et les staliniens, enfin les gardes d'assaut contrôlés par les staliniens expulsent les anarchistes de la centrale téléphonique, et ça provoque une semaine d'affrontements armés à Barcelone, la grève générale et quasiment une guerre civile dans la guerre civile.
Et on voit, même quand on va à Barcelone aujourd'hui, qui a bien changé par rapport à ce qu'était le Barcelone de 36, on voit encore certaines places et on se dit, ah bah oui, c'est là où ils se sont battus, mais c'était pas du corps à corps, mais à deux doigts quand même.
Enfin, la ville s'est hérissée de barricades, oui. Et il y a eu plusieurs centaines de morts, évidemment. Mmh. Et donc, il défend le local du Poum, puisqu'il fait partie de la milice du Poum, et il est du côté des ouvriers en grève et sur les barricades contre donc les gardes d'assaut, et il passe une semaine comme ça. Finalement, cette semaine des affrontements de mai 37 se termine un petit peu sans vainqueur ni vaincu. La direction, personne ne veut une guerre civile dans la guerre civile qui ne pourrait que favoriser évidemment les fascistes, et donc finalement le travail reprend au bout d'une semaine, les barricades sont démontées, Orwell retourne sur le front puisque sa permission est terminée, et là il prend une balle à travers la gorge et il passe très très près de la mort évidemment, et donc il part à l'hôpital, enfin dans un long circuit d'hôpital, de sanatorium, et il revient à Barcelone donc au mois de juin, et à ce moment-là les choses ont encore changé, et c'est la chasse au Poum donc qui était considéré comme un parti trotskiste, enfin ou en tout cas nommé comme tel par les staliniens. Et donc le Poum est déclaré illégal, tous ces locaux, ces journaux sont saisis, les dirigeants du Poum sont mis en prison, voire assassinés. Andrés Nin, par exemple, le dirigeant du Poum, le représentant du Poum a été assassiné, et il n'a pas été le seul, il y a eu aussi des anarchistes qui ont été assassinés aussi à ce moment-là, et Orwell lui-même est recherché, la police politique vient de faire une descente dans sa chambre d'hôtel, a confisqué tous ses carnets, et il n'a d'autre solution que de fuir.
Il se cache
même dans une église en ruine. Et donc, c'est vraiment l'inversion complète de ce qui s'est passé six mois avant. Il retourne, il prend le train avec sa femme. Sa femme travaillait pour le Poum à Barcelone. Et ils prennent le train à la gare de Barcelone en se faisant passer pour des bourgeois étrangers en vacances. Et il réussit à quitter l'Espagne de cette façon.
Et alors, comment arrives-tu à établir le lien entre le texte « Hommage à la Catalogne » et l'image? Tu vas le construire comment?
Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est que c'est un livre, c'est un livre qui a été écrit de mémoire. C'est très important, puisqu'il n'avait plus, ses carnets avaient été confisqués par la police. Donc, c'est un livre qui est hanté par la mémoire des images. Il a des images très fortes qui lui restent, de liesse populaire notamment, les images des miliciens, les visages des miliciens. Ces images reviennent tout le temps dans le livre. Et ces images, c'est précisément des images qu'on retrouve dans les reportages des opérateurs de la CNT, enfin dans les actualités cinématographiques en général, bien sûr, mais très particulièrement dans les images des opérateurs de la CNT, puisque les anarchistes contrôlaient à ce moment-là l'industrie de cinématographique à Barcelone, et que l'industrie cinématographique, il n'y avait pas de télévision évidemment, était en charge images, des actualités cinématographiques qui étaient diffusées chaque semaine au cinéma en première partie de programme. Donc la rencontre entre les mots d'Orwell et ces images m'est apparue comme possible, hein, voilà. Et j'avais envie de voir ce qui se passait quand on les mettait ensemble, quoi. Enfin, de créer une rencontre entre ces deux formes de mémoire. Et donc, c'est des images qu'on retrouve dans les archives. Alors, évidemment, ces images-là, il y a aussi une autre chose qui se produit, c'est avec ce travail de rapprochement, c'est que ces images, elles sont toujours au présent. Elles sont au présent, les images d'archives, parce que c'est une propriété des archives cinématographiques, et parce que, pour plusieurs raisons sans doute, mais notamment parce que les protagonistes qui sont dans ces images, qu'on voit sur ces images, ne connaissent pas la suite. Hein, ne connaissent pas la suite, donc sont dans une espèce sont dans le présent, et un présent dans le cadre de la Révolution espagnole est très particulier, puisqu'il est tourné vers un futur, un autre futur qui était selon la croyance des révolutionnaires espagnols. Donc ces images sont au présent. Et le texte d'Orwell, lui, il est au passé. Hein. Il a écrit son livre juste après, aussitôt après son retour en Angleterre. Mais dans les mois qui ont suivi, le livre a été publié en avril 1938, hein, donc moins d'un an avant son retour. Et le texte est au passé. Donc, voilà, l'idée, c'est de retrouver quelque chose du travail d'écriture d'Orwell, c'est-à-dire cette idée que l'écriture naît des images, hein, qu'il y a un travail de remémoration fait par Orwell, et l'idée, c'est de placer le spectateur dans cette position-là de remémoration. Alors, le spectateur, lui, évidemment, ce sont des événements qu'il n'a pas vécu, hein, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces images deviennent les siennes, en quelque sorte, c'est-à-dire fassent partie de sa propre mémoire. Non pas de sa mémoire individuelle, mais de ce qu'on appelle la mémoire des vaincus, la mémoire, une mémoire qu'il n'a pas vécue, mais dont il est l'héritier. Nous sommes les héritiers.
La mémoire des vaincus, je rappelle à nos auditrices, nos auditeurs, que c'est le titre d'un livre de Michel Ragon, qui est un très beau livre sur le mouvement ouvrier, et le mouvement anarchiste particulièrement. Et, alors, le livre d'Orwell, c'est un témoignage, un engagement politique, les deux?
Les deux, hein, c'est à la fois un récit personnel c'est un point de vue politique. Mais Orwell, c'était pas un militant politique, hein, c'était vraiment un écrivain, mais c'est un écrivain très particulier puisqu'il a toujours besoin de faire l'expérience de ce qu'il écrit. En le vivant, hein, on pourrait dire. Aussi bien dans la Dèche à Paris et à Londres, le Quai de Vigan, d'une certaine façon. Et surtout, hommage à la Catalogne, Orwell, c'était... il avait un accent d'Étonne, il venait de la bourgeoisie, plutôt. Et il avait été policier dans la police coloniale en Birmanie. Ses idées l'orientaient vers le socialisme, mais il lui manquait quelque chose, hein, il lui manquait une expérience. Cette expérience, c'est de vivre la même chose que ce que vivent ceux dont il parle.
Ouais. Et il a encore des illusions quand il revient d'Espagne par rapport au socialisme ou pas?
Non seulement, enfin, il a des illusions, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'il revient d'Espagne avec une conviction socialiste. D'accord. Qu'il n'avait pas au départ, hein, qui était au départ plutôt théorique, disons, quoi. Et là, il revient avec une foi encore plus grande dans les idées socialistes. Mais évidemment, avec une hostilité extrêmement vive, hein, à l'égard du stalinisme, des appareils de propagande en général.
Oui, alors il dénonce évidemment dans ce livre le système stalinien, on retrouvera d'ailleurs des échos dans 1984, mais il s'exprime dans le silence assourdissant de la gauche. personne ne va défendre son livre.
Bah, la gauche était...
De façon générale.
Les staliniens, à l'époque, étaient très influents dans la gauche. Mmh. Et puis, il y avait aussi... tout le monde savait que la guerre était imminente. Et la guerre mondiale, je veux dire, et que la guerre d'Espagne était une répétition, pouvait être considérée comme une répétition générale du conflit à venir. Et d'ailleurs, Orwell en a une prescience incroyable, puisque la fin du livre se termine par le bruit des bombes sur Londres, du Blitz, donc qui interviendra 2 ans plus tard. Ouais. Et à ce moment-là, à gauche, l'idée qu'il fallait pas critiquer l'Union soviétique, ne serait-ce que pour des raisons d'alliance contre les nazis, était une idée très forte. Très forte. Et donc les staliniens contrôlaient, dans la pratique, contrôlaient beaucoup l'édition. Orwell a eu des difficultés pour faire éditer son livre, et ensuite, le livre a été passé sous silence pendant plusieurs années.
Comme on le retrouvera avec d'autres livres qui dénonçait le stalinisme, l'affaire Kravchenko, etc.
Et voilà,
très difficile de trouver un éditeur pour éditer ce livre qui disait la vérité, Kravchenko. Alors, dans ce livre, tu vas nous présenter, tu vas faire appel à Bruno Podalydès pour lire les textes.
Voilà, Bruno, j'avais déjà fait appel à lui pour mon dernier film, qui s'appelle Les fantômes du sanatorium, où j'évoquais le séjour d'un jeune écrivain, Roland Barthes, au sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'est rencontrés, ça s'est bien passé, il a fait un très beau travail, et j'avais envie de lui proposer également cette interprétation d'Orwell pour ce projet, qu'il a accepté bien volontiers.
Donc les images, on les a. Le lecteur, je vais dire, le narrateur, on l'a. Tu fais aussi, le scénario, tout est bouclé, il est écrit.
En gros, on reprend le scénario du livre d'Orwell. Évidemment, il y a des choses, on ne peut pas tout mettre. Il ne s'agit pas de bourrer un maximum.
Ça va durer combien de temps ?
Une heure.
Film, une heure.
Voilà. Mmh. Il s'agit de... Moi, ce que je voudrais, c'est surtout que le livre, le texte d'Orwell nous emmène vers les images. Et c'est l'idée que c'est Foucault qui disait, Michel Foucault qui disait, on a beau dire ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Donc il y a quelque chose, l'image déborde toujours et elle est plus forte d'une certaine façon. Et donc, elle ne se laisse pas réduire à des mots, je veux dire. Mmh. Je voudrais que ce travail de remémoration, vraiment le spectateur puisse le faire pour son propre compte. C'est-à-dire que je pense que le cinéma a... est un outil pour fabriquer de la présence. C'est ça qui est fondamental. Donc, quand je disais que ces archives étaient au présent, il s'agit de rendre ce présent présent, en quelque sorte. Alors, c'est évidemment... il s'agit de faire de l'expérience d'Orwell, l'expérience vécue par Orwell, une autre expérience, une expérience de cinéma. Une expérience où, évidemment, qui est une expérience qui mobilise l'imaginaire, mais qui n'en est pas moins réelle, et qui permet de toucher ou d'approcher, en tout cas, ce passé.
Tu parles aussi, dans la présentation du film, de Walter Benjamin. Pourquoi ? Quel est l'écho entre le film Walter Benjamin ?
Benjamin était très attaché à l'idée il pensait pas que le passé était quelque chose qui était terminé. Il pensait que dans le passé, les choses pouvaient se réactiver, se réactiver beaucoup plus tard, et elles n'étaient pas figées, quoi. Et donc, le travail de remémoration est au cœur de la philosophie de Benjamin. Hein, voilà. Et donc, on est effectivement de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a... Ce qui m'intéresse, c'est comme cinéaste documentariste, disons, les ateliers Varan, où j'ai fait ma formation, qui est, à mon avis, une très bonne formation, que je recommande vivement, sont évidemment très influencés par le travail de Jean Rouch et ce qu'on a appelé le cinéma direct, hein, c'est-à-dire un cinéma plutôt du présent, où on filme la vie en train de se faire, disons. Hein. Pas d'interview... pas de voix off, et plutôt la vie en train de se faire, pour simplifier. Et moi, je me suis aperçu, au fur et à mesure des films que je faisais, que ce qui me passionnait vraiment, c'était le passé. Hein, c'était le passé, et c'était la présence du passé. Mmh. Voilà, et j'ai envie d'utiliser le cinéma comme un moyen d'accéder à ce passé.
D'accord. Alors, bon, les images, on a tout là, on a quasiment tout. Il reste un point important, peut-être, la dimension financière. Comment financer ce documentaire? Je crois qu'on parle de financement participatif.
Alors oui, il y a deux choses. C'est un financement un peu mixte.
D'accord.
Et c'est un film que je suis en train de réaliser avec des moyens professionnels, dans des conditions professionnelles, donc avec un producteur, c'est les films d'ici, et à une chaîne de télévision, parce que c'est comme ça en France, quand on veut faire un film documentaire.
Laquelle ?
La chaîne Histoire. Et donc, quand on veut faire un documentaire en France, il faut passer par la télévision, pour l'essentiel, hein, ou alors avoir suffisamment de moyens pour investir en dehors de la télévision, ou accéder à quelques rares aides destinées au cinéma, qui s'appliquent également au cinéma documentaire. Mais la chaîne Histoire, c'est une chaîne thématique, et le financement de la chaîne Histoire est insuffisant pour financer la totalité du projet. Surtout, c'est un projet auquel on souhaiterait donner une certaine ampleur. Pour pouvoir faire le film, le film qu'on a envie de faire, hein, avec le producteur Richard Coppens, on a pensé à ce financement participatif qui nous a été proposé par les amis de Maurice Rachfus. J'avais déjà fait un film sur Maurice Rachfus il y a quelques années. Qui nous ont proposé, avec l'association Faisons Vivre la Commune, de lancer ce financement participatif en complément, qui vient en complément donc du financement de la chaîne Histoire et du Centre National du Cinéma.
Mais où peut-on trouver, alors, donc, d'accord, on a cette interview là, Iket Nunk, mais où peut-on trouver une présentation de ce projet?
Alors, sur le site de Faisons Vivre la Commune, vous trouverez en page d'accueil, il y a une bannière tout en haut qui vous signale le financement participatif. C'est l'association Faisons Vivre la Commune sur son site qui gère ce financement, qui accueille ce financement.
D'accord. Alors, je dis à nos auditrices et auditeurs qu'on connaît bien l'association Faisons Vivre la Commune, et on a, au moment du 150e anniversaire, pas le bicentenaire, mais du 150e anniversaire, on a pas mal travaillé avec eux et on avait reçu les animateurs. Si tout va bien, le film...
Le montage, pas trop vite quand même, mais le montage va démarrer là, et on espère sortir le film, on pense sortir le film début 2025. Ça va aller assez vite.
Ah oui,
dans 6 mois, on pourrait dire que ça devrait être bon, quoi.
Donc, chers amis, eh bien, on vous invite à aller vraiment sur le site de l'association Faisons Vivre la Commune. Vous aurez toutes les informations, même moi j'ai compris. Donc, tout va bien et c'est fiable, c'est sérieux, on les connaît bien. Et si jamais vous avez des questions, des remarques, évidemment, vous déposez un message sur le blog de notre groupe, Commune de Paris, et nous transmettrons immédiatement à Frédéric et à l'association Faisons Vivre. Merci Frédéric, nous attendons donc la projection du film. Alors, il va être projeté sur la chaîne Histoire ou il va y avoir des projections?
Non, il y aura des projections. Non, l'idée c'est de le sortir un peu en salle aussi, et donc il y aura bien sûr des projections en salle. Hein. La chaîne Histoire, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de financer le film, enfin en tout cas la plus grosse partie du film. Et puisque en gros, si vous voulez, entre la chaîne Histoire, le CNC, on a réuni 60 000 euros et le film aurait besoin de 80 000. Ouais, c'est ça. On aurait besoin de 15 000
euros. Voilà, c'est 15
000. On a 65 000. On a 65 000 euros.
Donc c'est possible.
Et on a besoin de 15 000 pour terminer, notamment pour faire le montage son. Mais l'idée, c'est bien sûr d'organiser des projections au cinéma, de le sortir en salle autant que possible. Et à Paris et en province.
Même le trouver à public projeté, à Publico.
Bien sûr. On va s'y employer en tout cas. Ouais. Quand le film sera terminé, bien sûr.
Bon, eh bien, tout le monde compte les uns sur les autres. C'est un beau signe de solidarité. Tu nous as proposé une musique qui devrait accompagner le film, je crois.
Oui, alors, donc, il y a ce qui est intéressant, chaque production de film est une expérience singulière, mais dans ce cas-là, ce qui m'étonne, moi, c'est, enfin, ce que je remarque, c'est qu'il y a à la fois un financement institutionnel, de audiovisuel, etc., mais il y a aussi une contribution de bénévoles, militantes, de pas mal de monde, et un ami que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Jean Rochard, qui fait le label Nato, m'a proposé, est enthousiasmé par le projet, et m'a proposé de réunir quatre musiciens pour écrire et faire de la musique pour le film. Voilà. Et ces quatre musiciens, c'est Catherine Delaunay, clarinette, Tony Aymas au piano, Bruno Ducret et Guillaume Séguron à la contrebasse. Et donc, ils ont enregistré les morceaux en question. Et donc, on va écouter un morceau de Catherine Delaunay, donc la clarinette, qui s'appelle « De l'autre côté » de Huesca, je crois. Et Huesca étant le front, enfin la ville du front où était Orwell.
Était Orwell. Très bien. Frédéric, nous écoutons. ¶¶